Christophe Géréty, vous êtes le député La République en marche de la première circonscription de la Corrèze. Depuis le 17 novembre, les partis politiques, comme les médias, comme les syndicats, comme les corps intermédiaires, ont beaucoup de mal à analyser le mouvement des Gilets jaunes. C'est quoi pour vous ce mouvement des Gilets jaunes?
Le mouvement revendique un certain nombre de choses irritantes depuis des années, hein, notamment la partie taxation est toujours sur les mêmes classes, les classes populaires, moyennes et souvent travailleuses. C'est difficile à identifier parce que chaque fois que nous les rencontrons, chacun évoque son cas personnel pour expliquer un petit peu les difficultés qu'il vit. Voilà, donc c'est un mouvement qui est hors cadre habituel. Et donc qui interpelle de façon assez directe et assez libre avec le point d'orgue effectivement de la problématique du pétrole, notamment dans le territoire, puisqu'on sait que l'essence est très obligatoire pour pouvoir circuler, ce qui est moins le cas dans les villes, et donc ça a un impact important sur la population, notamment dans nos territoires.
Il est difficile de ne pas revenir quelques instants sur les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui déclarait sur RTL à propos de la manifestation de samedi dernier, sur les Champs-Élysées, c'est la peste brune qui a manifesté, pas les gilets jaunes. Il rajoutait ensuite, ce n'est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous n'avez pas une chemise brune en dessous. Comment vous avez reçu ces propos du ministre de l'Action et des Comptes Publics?
Oui, c'est les propos que Gérald a eus sur sa vision des choses. Nous, on est dans des territoires différents. Moi, je n'étais pas à Paris, donc je ne peux pas me rendre compte de qui il y avait sur place. J'ai pu aller constater lundi matin, par contre, les quelques dégâts qu'il y a eu. Voilà. Après, moi, je pense que le contexte de notre territoire est différent et on ne peut pas parler de cette façon-là sur ces éléments-là. Autant sur Paris, ça semble être plus particulier. Quand ça se développe, sachant que la semaine, il n'y a personne en gilet jaune à Paris et que c'est réellement un sujet très territorial et notamment dans nos territoires plutôt ruraux avec une faible mobilité et où chaque augmentation a un impact beaucoup plus important que dans la ville.
Édouard Philippe, Premier ministre, doit recevoir normalement des représentants des Gilets jaunes cet après-midi, ce vendredi après-midi. De son côté, Emmanuel Macron.
Confirme.
De son côté, Emmanuel Macron, depuis Buenos Aires, à l'occasion du G20, a promis, lui, de ne jamais reculer et de ne rien céder à la démagogie. Comment on dialogue dans ces conditions? De quoi on parle?
C'est d'avoir les revendications plus précises, parce qu'on a un listing assez large de revendications, et donc c'est comprendre et connaître les vraies revendications, non pas des individuelles, mais des collectives. Et donc à ce moment-là, Édouard Philippe pourra réfléchir au travail qu'on doit avoir sur les 3 prochaines années pour faire baisser les impôts et les taxes, parce que c'était l'objectif quand même initial que nous sommes fixés. On sait que c'est compliqué, mais c'est vraiment l'objectif final du mandat. Donc ça nous permettra d'avoir aussi le ressenti, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet, et puis ça permet aussi d'expliquer où vont les taxes et qu'est-ce qu'elles permettent de financer, que ce soit l'impôt sur le revenu, la TVA, la TICPE qui finance quand même le RSA pour les départements, les régions et une partie des budgets de la transition énergétique. Donc ça permet aussi de remettre certaines bases sur la table des deux côtés.
On entend de plus en plus le mot pédagogie dans la bouche d'Emmanuel Macron, aussi chez Édouard Philippe, aussi chez des membres du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de mettre en avant un besoin de pédagogie, on finisse par comprendre que les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour comprendre?
Non, c'est pas ça. Je crois très sincèrement. Moi, j'ai eu Édouard Philippe au téléphone samedi après-midi pour prendre la température corrézienne et je lui ai expliqué que jamais personne n'avait expliqué comment fonctionnait un budget, à quoi ça servait. Les gens ont besoin de savoir plus précisément où vont leurs impôts. Ça se fait dans d'autres pays, et c'est pas chez nous. On a plutôt, j'ai compté, on a 214 taxes en France et plus de 450 exonérations ou abattements, c'est-à-dire un gruyère en matière d'imposition. Et je pense que ces éléments-là n'ont jamais été expliqués depuis 30 ans. Et ça permet aussi de faire comprendre aux gens, parce que c'est extrêmement complexe, comment est monté le budget français, parce qu'il est différent des autres pays.
Hugues Rançon, député La République En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale, a estimé jeudi que la majorité avait, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, je cite, fait des erreurs. Et il jugeait en particulier que les députés de la majorité devaient davantage, je cite à nouveau, faire remonter les messages entendus sur le terrain. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Hugues Rançon?
Oui, Hugues Rançon a fait cette déclaration. Pour bien le connaître, c'est des choses que quelques députés, une vingtaine de députés font remonter, c'est-à-dire les actions territoriales et les problématiques territoriales, puisque ces éléments-là, on ne les ressent pas à Paris, on les ressent plutôt dans les territoires comme les nôtres. On avait alerté sur l'augmentation éventuelle de la TCPE et les conséquences sur la mobilité chez nous. Voilà, donc du coup, ce sont aussi ces éléments-là et il en a fait une globalité. Voilà. Parce qu'on a une majorité de députés qui sont quand même des urbains, et sur la partie urbaine où on a une mobilité différente, bah, c'est plus facile. Après, il est compréhensible qu'on peut on peut faire un constat et faire un mea culpa peut-être sur certains éléments. Ouais. Après, je ne sais pas de quelles erreurs il parlait, puisque nous n'avons pas pu en parler. Moi, je ne l'ai pas vu cette semaine, étant cantonné au budget des finances pendant toute la semaine et au budget de l'Europe. Voilà.
On entend souvent les responsables politiques utiliser cette expression, les Français. Il se trouve qu'une partie de ces Français dont se réclament les responsables politiques sont regroupés depuis le 17 novembre un peu partout en France. Vous êtes allé à leur rencontre?
Oui, alors moi je préfère qu'ils viennent pour éviter les discussions individuelles. Ça a pu être organisé la semaine dernière. Là, bon, je suis passé, étant encore élu local sur le secteur 9, donc je m'y suis arrêté. Voilà, avec des discours divers et variés, c'est ça la difficulté. Et puis il y aura une organisation qu'on est en train de calibrer avec chaque secteur. Parce que chaque secteur est indépendant, c'est aussi ça la difficulté. Avec le secteur du sel, donc avec mes collaboratrices, et puis nous verrons le secteur Brésil aussi. Mais après, la difficulté, elle est que chaque pôle est indépendant, on va dire pôle gilet jaune, hein, chaque site, qu'il est difficile d'avoir une ligne commune de tout le monde et de savoir exactement là où il en est, au-delà du fait que les impôts et les taxes sont trop élevés.
Hier soir, j'étais sur le site de l'A23, le rond-point situé entre Saint-Angèle et Ussel, à hauteur de la sortie 23 de la 89. J'ai rencontré les gilets jaunes qui s'y trouvent et ils ont une question à vous poser. Je vous la fais écouter tout de suite.
Bonsoir, monsieur le député. Je représente ce soir, à travers cette question, les gilets jaunes de l'A23. Nous aimerions vous inviter à venir nous rencontrer quand vous le souhaitez, même s'il aurait été préférable que ça se fasse sans invitation, mais d'une manière spontanée de votre part.
Vous allez répondre positivement à cette invitation?
Je les ai vus à Chavroche pour une grosse partie la semaine dernière, puisqu'ils sont venus aux inaugurations dans la mairie. Donc voilà, on a convenu qu'on se reverrait et on a donné le numéro de téléphone de mes collaboratrices pour calibrer justement la rencontre et que ça soit simple et que tout le monde puisse discuter à tête reposée. Donc oui, et d'ailleurs c'est ce que je vous disais, ça sera calé normalement là, vendredi après-midi, donc dans la semaine, dans le début de semaine, pour que je puisse les rencontrer. Voilà. Après, c'est ce qui a été évoqué lors de la rencontre de la semaine dernière, pour avoir non pas 150 personnes, mais avoir une dizaine de personnes et avoir, être assez libre dans la discussion. Voilà, donc il n'y a pas de souci, puisque c'est ce que nous avions convenu à Chavroche la semaine dernière, pour les rencontrer de façon un peu plus calibrée, afin de ne pas avoir que les visions individuelles, mais les visions collectives.
Je vais vous poser une question qu'on pourrait qualifier de démagogique, qu'il est un peu probablement. Comment vous vous déplacez dans votre circonscription?
en voiture, vous le savez bien.
La taxe carbone qui a été augmentée et qui a été la goutte d'eau qui a provoqué la mise en place du mouvement des Gilets jaunes, c'est une taxe qui est mise en place pour des raisons écologiques, c'est pour limiter les gaz à effet de serre. Au moment de la réforme de la SNCF, le gouvernement avait annoncé sa volonté de supprimer des milliers de kilomètres de petites lignes. Le gouvernement avait ensuite fait marche arrière et il se trouve qu'aujourd'hui, la ligne TER Limoges-Ussel est toujours menacée. D'un côté, on augmente la taxe carbone pour empêcher la fin du monde. D'un autre côté, on supprime peut-être les lignes TER. Comment on trouve une cohérence là-dedans entre une demande de changer de véhicule ou de ne pas prendre son véhicule et en même temps de suppression de petites lignes?
La cohérence, c'est justement de savoir cet aménagement du territoire. Alors, les suppressions des petites lignes, ça a toujours été évoqué ou jamais dit. Après, c'est qu'on calibre la mobilité selon les besoins et en fonction des communes et de l'utilité. Voilà. Donc, il y a la loi LOM qui arrive avec des négociations avec la région, puisqu'on sait qu'une bonne partie du transport régional n'est plus État, mais a été transféré à la région. Et après, voilà, quand vous changez les systèmes ou que vous commencez à les faire évoluer, automatiquement, ça a un impact sur l'ensemble des décisions qui sont prises. Et là, c'en est le cas. Voilà.
Aux États-Unis, Emmanuel Macron avait dit que la démocratie n'est pas dans la rue. Aujourd'hui ou hier, François Bayrou déclarait « À un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple ». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de François Bayrou, à savoir qu'on a actuellement, selon les différents sondages, plus de 70% des Français qui soutiennent ce mouvement ?
Chaque phrase des anciens élus me semble un peu limitée, parce que bon, ils ont failli à un moment donné, quand ils ont été au pouvoir, de ne jamais expliquer ce qui aujourd'hui est en train d'arriver, c'est-à-dire des augmentations démesurées en mettant des services sans pouvoir les payer. Voilà, on va résumer comme ça. Donc la phrase de Bayrou, elle est assez facile pour se faire vivre, puisque c'est des gens qui sont plus que élus locaux. Après, sur le principe, voilà, il faut toujours avoir une écoute du local, mais il est effectif aussi qu'on doit travailler pour la généralité de la population. Donc voilà, je crois qu'après, la démocratie a eu difficulté, c'est-à-dire que nous soyons bien représentatifs à la fois de la population, mais aussi des votes qui sont faits N-1, c'est-à-dire le vote de 2017 qui a accordé une majorité à Emmanuel Macron, et la taxe carbone avait été annoncée son augmentation. Donc par définition, voilà, c'est aussi les conséquences de ces choix-là. Après, par rapport aux phrases de Bayrou, Hollande ou tous les autres, à un moment ils ont été en responsabilité. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été aussi efficace que ça, sinon on n'en serait pas là.
Hugues Ranson, donc député La République En Marche de Paris, Brigitte Bourguignon, la présidente LREM de la Commission des Affaires Sociales, Patrick Vignal, député aussi de la majorité, ou encore Sonia Crimi, elle-même membre de la majorité, tous émettent chacun à leur manière des réserves, voire des critiques sur le fond et sur la forme de la politique du gouvernement depuis le début de cette crise. Vous vous situez où entre ces députés d'un côté et d'un autre côté le président qui annonce qu'il ne reculera pas ?
Il n'y a pas de situation en tant que telle. C'est-à-dire que nous faisons une partie des quelques députés qui travaillons plutôt dans les commissions et avec en direct les gouvernements. Avec le gouvernement, donc on a alerté les choses et nous, on les a dites. C'est pas maintenant en allant à la télé en annonçant que tout est pas bon et alors qu'on l'a voté et que tout le monde l'a voté à une certaine époque. Donc je pense qu'il faut aussi que chaque député prenne ses responsabilités. En l'occurrence, voilà, il y a des choses, nous, on pense sur le plan territorial, qui mettent en difficulté les gens. On a fait remonter les éléments directement au gouvernement. C'est pas lieu d'aller parler à la télé pour dire telle ou telle chose, alors que ces députés-là ont voté aussi ces choses-là à un moment donné. Donc, je pense que c'est pas d'être sur une position. Il est nécessaire surtout d'adapter s'il y a besoin d'adapter. Si on a besoin de continuer les réformes, on doit les continuer. Voilà. Donc, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la partie territoriale, parce qu'on voit que c'est les territoires ruraux les plus touchés quand il y a un impact ou un choix qui est fait nationalement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, puisqu'on travaillait uniquement pour les métropoles.
Concrètement, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, l'addition des dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement, les assurances, les services financiers, les dépenses de télécommunications, si on ajoute ces dépenses contraintes aux dépenses incontournables, alimentation, transport, santé et éducation, on arrive à 87% des revenus des ménages les plus pauvres contre 65% des ménages les plus riches. Toujours d'après le CREDOC, pour les ménages les plus pauvres, il ne reste que 80 euros par mois une fois payées ces dépenses contraintes et incontournables. De son côté, le Conseil national de politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le CNLE, explique que le reste à vivre des plus pauvres n'est le plus souvent que de quelques euros quand il n'est pas négatif, à savoir que quand on ajoute à tout ça les remboursements de crédit, on arrive à un reste à vivre négatif, c'est-à-dire une situation budgétaire déséquilibrée en permanence. On est au 15e jour de mobilisation aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes. Comment on sort de cette crise par le haut avec ces informations très concrètes sur la vie d'une partie de la population la moins favorisée ?
Ouais, il y a la moins favorisée, la partie de la population qui travaille, qui paye et qui n'a rien. Et ce que je retrouve moi sur les Gilets jaunes, c'est plutôt cette partie-là qui demande justement à avoir un peu moins d'aide et à avoir un travail beaucoup plus rémunéré. Jusqu'alors, moi, c'est plutôt le sentiment que j'ai eu. Alors, par rapport à ces études-là qui sont faites, non pas sur la base N-1, mais sur plusieurs années en arrière, on s'aperçoit bien évidemment qu'il y a une part de pauvreté qui augmente par définition, puisque le coût de la vie augmente et l'inflation augmente. Voilà. Après, nous, sur la partie gilets jaunes, si on parle de celle-ci, moi, j'ai trouvé plutôt des gens qui travaillent ou qui sont à la retraite, qui ont travaillé beaucoup, et qui aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ils payent et à qui ils le donnent. Donc, en fait, c'est assez paradoxal d'avoir eu cet élément-là à ce moment-là, parce que les gens qu'on retrouve, c'est plutôt les gens qui réclament d'avoir une transparence et qui ont cotisé ou qui ont payé des impôts pendant de nombreuses années et qui ont reçu peut-être moins que les autres. Voilà.
Quand on écoute les Gilets jaunes, on entend beaucoup de revendications d'ordre économique, c'est qualifié de mouvement social. Derrière, il y a aussi une critique sous-jacente du personnel politique, une critique de la représentation, de la démocratie représentative. C'est difficile de ne pas revenir non plus sur un autre propos de Gérald Darmanin qui expliquait que, je cite, « nous devons entendre et comprendre ce que c'est que de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un ». Cette déclaration de Gérald Darmanin, ça pourrait n'être qu'une gaffe anecdotique en soi, mais est-ce qu'elle ne reflète pas un peu cette déconnexion des réalités qu'une majorité de Français reproche aux responsables politiques ?
Gérald Darmanin a dit la vérité, c'est pas une déconnexion, c'est justement lui, il a conscience de la différence entre ce qui est payé à Paris lors d'un repas et ce que les gens ont peut-être en salaire. Donc c'est justement la réalité qu'il explique. Puisque moi j'ai relu justement ce qu'il a dit, je l'ai vu, donc très clairement. Après, aujourd'hui, on a tellement menti, les élus politiques ont tellement menti sur leur programme, sur leur façon de faire, qu'on peut comprendre largement que les gens n'aient plus confiance aux élus politiques qu'ils élisent. C'est justement pour ça qu'on y a été, une nouvelle génération, pour essayer de dire la vérité, ce qu'on essaie de faire. Parce que globalement, sur ce qu'on avait annoncé dans le programme, on est en train de le tenir, dont la taxe carbone qui a fait aujourd'hui un petit peu effet boomerang pour développer les gilets jaunes. Mais c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est ça la vraie vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dira les choses clairement et on ne mentira pas et on se rendra compte qu'on n'a pas menti, les gens pourront revenir vers nous. Aujourd'hui, la difficulté, elle est exactement pareille sur les élus politiques et les élus syndicaux, parce qu'on voit bien que les syndicats ont du mal à se positionner à chaque fois que maintenant il y a une revendication.
Demain a lieu le troisième acte, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la mobilisation des Gilets jaunes, un rassemblement prévu sur Paris et de nombreux rassemblements maintenus en province. Vous serez où demain ?
Moi, je serai en province, puisque je suis revenu. Voilà, sur Tulle, comme tous les week-ends. Après, voilà, j'espère que ça se passera correctement. J'espère surtout qu'on bloquera pas, notamment dans nos territoires ruraux, le commerce local et qu'il puisse au moins travailler sans trop encombre. Je l'espère et je pense que tout le monde jouera le jeu pour que ça se passe bien ce samedi s'il y a une manifestation importante ou s'il y a des petites manifestations locales.